C'est l'histoire d'un grand méchant loup qui avait les crocs. Ça le rendait fou, de la chair fraîche cherchait partout. Surtout dehors, quand il faisait noir, dans les parkings et dans les gares, on savait qu'il rôdait le soir. Chassait pour pouvoir se nourrir chez lui, c'était ça, ou mourir. Après tout, c'est bien naturel, qu'est-ce que tu foutais là ma belle? Tu étais seule, il faisait nuit et en plus tu étais jolie. D'ailleurs, tu ne t'en cachais pas, tu les as montrées tes gambettes. Mais où avais-tu donc la tête? Cette jupe faisait de toi une proie. Tu le savais, allons, allons, toi t'aurais dû faire attention. Le loup lui avait ses pulsions irrépressibles, incontrôlées. Tu n'aurais pas dû le tenter. Ah non, fallait pas jouer à ça. Alors il a fendu sur toi, t'a attrapé, t'a mise plus bas que terre. Alors il t'a frappé. De coup, ma belle, il t'a roué. Mais moi, je sais pas s'il t'a violé. Il paraît que t'as pas bougé. Et si ça se trouve, t'as pas crié. Alors peut-être que t'as aimé. On sait comment vous êtes, vous autres. Faites les mijaurées de tête haute. Vous dites non, vous pensez oui. En vrai, vous en avez envie. Folle du cul, un peu mythomane. Kamikaze et même pyromane. Ça va pas d'aller allumer un grand méchant loup affamé, pas la peine d'aller pleurnicher. Au fond, vous l'avez bien cherché, cesse-moi cette larme et mouche-toi le nez. Ferme ta bouche, fais le dos rond. Si t'as peur, reste à la maison. Empêcheuse de violer en rond, surtout ne pose aucune question. Laisse-nous nous raconter l'histoire du loup-garou et de la gare. On est tranquille, on est peinard, ça évite de se demander d'où vient ce permis de violer. Entre le fromage et la poire, on se dira que t'as déconné et que c'est pour ça que c'est arrivé.
France Inter. Julia Foyce, pas son genre.
Bonsoir, bienvenue. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, déferlait sur le monde ce hashtag MeToo en France. C'était balance ton porc, on a dit révolution, on a dit libération de la parole, oui. Mais pourquoi faire? Les oreilles se sont-elles débouchées? À force d'entendre les victimes parler, nos représentations du viol ont-elles changé? On en parle avec vous ce soir, Emmanuel Piette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin du planning familial du 9-3, présidente du collectif féministe contre le viol, présidente de la commission santé au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Vous êtes surtout, quoi qu'il arrive, une femme qui n'a pas tout à fait sa langue dans la poche. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que si je vous dis par exemple mauvais genre, Emmanuel Piette, qu'est-ce qui chez vous tiendrait de la petite provocation, de la petite transgression du quotidien que vous nourrissez?
Alors pour moi, c'est la liberté. Mmh. Et ça, c'est très transgressif pour une femme.
Et elle passe par quoi, cette liberté?
De faire ce qu'on veut, comme on croit que c'est bien.
C'est quel ça, que soit, pas de gendarme interne, pas de gendarme externe.
Assez peu vraiment.
Pour tout et pour n'importe quoi.
C'est-à-dire que je pense que si c'est bien, il faut le faire.
Eh bien, on va se rendre compte ce soir, c'est validé. On va donc se balader avec vous sur cette drôle de planète genre dans ce monde post-MeToo. Et ce soir, tout part d'un bar cosy, lumière tamisée, banquette rouge. C'est un peu soul, un peu funk, c'est très années 80. C'est le décor choisi par Jungle pour le clip de Casio. Et c'est une playlist France Inter, évidemment.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now.
Still holding on, you waited far too long.
Vraiment, foncez voir ce clip de Jungle, c'est aussi bon au son qu'à l'image et on en a besoin de ces choses qui font du bien, surtout comme quand ce soir on serait vaguement tenté de se dire que non, rien n'a changé depuis MeToo. Les hommes ont des pulsions, les femmes l'ont bien cherché, les stéréotypes ont la peau dure et avec Emmanuel Piette, président du collectif féministe contre le viol, on essaye de comprendre pourquoi.
Passons genre.
Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, même si on fait quelque chose.
Il me dit, bon, il y a les femmes aussi qui provoquent, je pense, un jour.
Puis il restera toujours des hommes frustrés. Voilà, tout simplement. Ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison, donc malheureusement, ils font sur des femmes qui veulent pas.
Bah ouais, malheureusement. Ce micro-trottoir a moins d'un an, tourné donc après MeToo. Un coup pour rien, du coup, MeToo, d'après vous, Emmanuel Piette ?
Ah, pas du tout. Ça a permis d'abord de montrer que des femmes de milieux culturels avancés pouvaient aussi être victimes de viol. Mmh. Ils traînaient. Il y a beaucoup de stéréotypes sur le viol. On pense d'abord que c'est des jeunes femmes, ensuite que c'est dans les milieux populaires, ensuite que, alors que dans 60% des cas, c'est avant 18 ans, 40% avant 11 ans, 30% avant 7 ans, qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de milieu social. Et que c'est dans 80 à 90% des personnes qu'on connaît. Le tiers, c'est perdant, je dirais, c'est papa, le mari, le patron. Donc c'est tout.
Oui, mais malgré ça, sur le plan des représentations, c'est assez net, ça n'a pas vraiment bougé. Il y a eu ce sondage IFOP conduit par Mémoire Traumatique et publié en juin dernier. Pour les deux tiers des Français, Emmanuel Piette, les femmes ont besoin d'être amoureuses pour faire l'amour. Les hommes, eux, ont une sexualité faite de pulsions qu'ils ont du mal à maîtriser. Je m'adresse au médecin que vous êtes. C'est un besoin, le sexe, pour les hommes ?
C'est-à-dire que quand on n'a pas de sexe, on a déjà des éjaculations. Mmh. Et puis on peut se masturber, et il n'y a pas besoin d'un compagnon ou d'une compagne.
Et si on n'éjacule pas,
si on n'éjacule pas, et ben il y a des, ce qu'on appelle, dans le temps on appelait ça les pollutions nocturnes, il y a une soupape, ça va dégager tout seul, y a pas, on n'explose pas.
Le collectif féministe contre le viol a ouvert en 86 le premier numéro vert anonyme et gratuit pour les victimes de viol, SOS, Viol Femme Info Service, on rappelle le numéro.
0800 05 95 95.
Merci. Vous avez recueilli en plus de 30 ans des dizaines de milliers de témoignages. Ce qu'il ressort à chaque fois, et c'est assez saisissant, c'est un scénario identique, malgré les circonstances toutes différentes. Autrement dit, Emmanuel Piette, à rebours de cette idée de pulsion, vous avez identifié ce que vous avez appelé la stratégie de l'agresseur. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Et c'est à chaque viol, on va pouvoir chercher la même chose, c'est-à-dire d'abord le choix de victime. Et dans le scénario de l'agresseur, il aime les blondes, il aime les petites filles, il aime les garçons, enfin je veux dire que c'est... Il choisit sa victime. Il va l'isoler, il va l'humilier, lui faire peur, inverser la culpabilité, lui faire... J'ai vu une patiente à qui il avait demandé... qu'elle lui demande d'enlever son pantalon. Alors évidemment,
ah oui,
si tu vas chez les policiers en disant « je vais demander d'enlever son pantalon », évidemment, on va dire que tu vois qu'elle voulait. Et puis surtout, rester en liberté et garder sa chair fraîche. Ça veut dire des menaces très importantes si elle parle. Ouais. Si tu parles, je te retrouverai. Si tu parles, je te tue. Si tu parles, je te mets à poil sur face de bouc. Si tu parles, tout le quartier saura que t'es pas vierge. Enfin, des petites choses qui font très peur. Et qui font que elles vont garder ça, sentir que, penser qu'elles y sont pour quelque chose. Et ça va leur permettre de rester libres aux autres. Et donc, ça, c'est énervant quand même.
Isolée. Isoler. Menacer, humilier, inverser la culpabilité, faire très peur, tout ça, c'est donc une stratégie, on n'est pas du tout dans la pulsion. Ça veut dire que le loup-garou, le sociopathe, le psychopathe qui est sorti au milieu de la nuit, c'est au contraire très pensé.
C'est
ça.
Très pensé, et l'autre chose qu'on dit, qui sont des pulsions d'amour, entre guillemets, ou je ne sais pas, et qui ça s'oppose au consentement, qui m'agace un peu l'idée qu'il faudra apprendre aux filles à dire non et des choses comme ça, ils savent qu'elles ne veulent pas. Moi, par exemple, j'ai des patientes à qui je donne du lubrifiant parce qu'elles sont violées par un mari qui leur fait mal, et ça va mieux, elles ont moins mal, et quand je demande, j'en remets, les hommes ont dit non. Je n'aime pas, il n'aime pas quand j'ai pas mal. Donc, en vrai, un violeur, c'est quelqu'un qui sait que tu veux pas, ouais. Et c'est ça qui le fait bonder.
Et ça, on en est sûr. C'est-à-dire tous les témoignages que vous recevez sur cette ligne d'écoute, le SOS Viol Femmes Info Service, vous le disent. Ces hommes-là, quand ils violent, savent qu'en face, ne veut pas.
Non seulement ça, mais en plus de ça, c'est ça qui leur fait plaisir. Et puis,
qu'est-ce qui permet de dire ça, par exemple? Donnez-moi un autre exemple de.
Ah bah c'est déjà pas mal. De témoignage, refuser que ça fasse mal.
Il est bien,
Et parce qu'il est pas unique. C'est une femme sur trois à qui je prescris du lubrifiant qui me dit je peux pas en reprendre parce que mon mari n'aime pas quand j'ai pas mal. Donc c'est quand même.
Mais alors pourquoi cette idée de pulsion résiste? Qu'est-ce qu'elle sous-tend ou qu'est-ce qu'elle protège, Emmanuel Piette?
Ah bah les violeurs, c'est vraiment ça. C'est la stratégie de violeur pour être protégé. Il pourrait pas se retenir. Et la deuxième chose, il savait pas que tu voulais pas. Or, ça, c'est pas vrai.
Et puis, si c'est une pulsion, c'est que le viol, en quelque sorte, à échelle d'une société, c'est une fatalité contre laquelle on peut rien faire.
Absolument.
Donc, c'est comme ça.
Voilà. Et quand on dit il faudrait apprendre aux victimes à mieux dire non, apprendre aux victimes à se défendre, etc., on se rend bien compte à quel point c'est culpabilisant pour les victimes. Tu t'as mal dit non, c'est pour ça qu'il n'a pas compris, il n'avait pas bien compris que tu ne voulais pas.
Mais d'ailleurs, le corollaire, Emmanuel Piette, c'est que puisque les hommes ont des pulsions irrépressibles, c'est que c'est aux femmes de faire attention. Dans son Agifop, toujours, c'est assez clair. Pour 42% des Français, si une victime de viol a eu une attitude provocante en public, cela atténue la responsabilité du violeur. Pour 36% des Français, le viol peut donc être excusé ou toléré, voire justifié dans certaines situations. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais le viol, c'est pas du sexe, c'est pas du désir, c'est de la contrainte, de la domination. C'est une magnifique arme de guerre. Depuis la nuit des temps, on apprend aux hommes que quand tu fais la guerre, tu vas violer la femme, la fille de ton ennemi. C'est comme ça que tu lui feras le plus de mal. La femme est là que la propriété d'un homme. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi dans l'imaginaire. Donc c'est ça qui va faire que toujours, on va penser, d'abord on les excuse, et on les excuse dans le langage. Dans les expressions habituelles, on scotomise la victime, on parle du violeur de la gare de Perpignan, par exemple. Le mec, il s'enfile des gares. Non, des femmes dans les gares de Perpignan. Et puis, donc on scotomise la victime, et puis on atténue. On parle pas de viol, on parle de...
C'est un dérapage.
De dérapage, de passage à l'acte. Passage à l'acte. Donc voilà, et c'est à longueur de temps comme ça.
Avec nous en ligne, Véronique Le Goasiou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheuse associée au CNRS. Vous vous êtes plongée dans plus de 400 affaires de viol traitées aux assises pour en publier des conclusions statistiques dans ce livre, Le viol, aspect sociologique. On va le parcourir avec vous, mais d'abord, j'aurais voulu vous faire écouter à toutes les deux cet extrait de l'After RMC, Daniel Riolo et Jérôme Rotten, consultants foot de la chaîne en juin dernier. Ils revenaient sur l'affaire Neymar. Une Brésilienne, souvenez-vous, avait accusé de viol le footballeur. Écoutez ce qu'ils en disent.
Je peux plus m'empêcher de penser à un truc un peu con. Hein. Vous me permettez 5 minutes. Mais la nana, tu l'as vu la nana?
Ouais, je l'ai vu.
Putain, tu fais venir une nana du Brésil. Putain,
non, attends, c'est, effectivement, c'est très con.
Je m'attendais à ce que ce soit la moyen, ouais. Avion de chasse intersidéral. Quoi. C'est vachement déçu.
C'est de la deuxième division, ça.
Non, ah, mais ouais. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2.
Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une Ligue à avoir dans le débat.
Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle?
Mais c'est pas un débat parallèle, ça. C'est une histoire. Ça n'a rien à voir.
Le débat parallèle.
Attends, quand tu t'appelles Neymar, t'as
un minimum de qualité, quoi.
Quand même.
Je sais pas, peut-être que lui, il kiffe. Et puis,
normalement, c'est de Champions League. Et au moins, ça passe les huitièmes.
Faire venir, prendre l'avion, un chien, tu vois ça débarquer. Et là, merde. Et en plus, à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde.
Ça joue les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi.
Et je précise que devant le tollé provoqué sur les réseaux sociaux, ces deux hommes ont été suspendus de l'antenne pendant quelques jours. Véronique Le Goysiou, si on s'intéresse d'abord au profil des victimes, combien, selon l'expression si joliment employée par Riolo et Roten, combien d'avions de chasse, combien de jeunes chairs fraîches particulièrement séduisantes?
Oh ben ça veut rien dire. Combien de chairs fraîches particulièrement séduisantes?
Est-ce qu'il y a un profil
des
victimes
En fait, on n'en connaît pas. Les victimes sont de tous âges, même s'il y en a sans doute un peu plus parmi les jeunes femmes. En tout cas, des femmes jusqu'à 40-45 ans. C'est vrai que c'est plutôt des victimes de cet âge-là. Mais sinon, en termes de profil sociologique, il n'y en a pas, puisqu'on sait, c'est un des enseignements très importants, que les viols sévissent dans tous les milieux sociaux et que les victimes, du reste, comme les auteurs également, sont également de tous les milieux sociaux.
Est-ce que leur point commun serait une forme de vulnérabilité ou de précarité à un endroit ou un autre?
Les victimes ou les auteurs?
Les victimes. C'est-à-dire soit jeune, soit vieille, soit handicapée, soit pauvre.
Non, je vois pas en quoi il y aurait une précarité particulière ou une vulnérabilité particulière.
On pourrait penser chez les femmes handicapées.
On pourrait penser, Emmanuel Piette, que dans la mesure où le viol est aussi un instrument de domination, qu'on domine aussi plus facilement celles qui sont plus jeunes ou plus malades ou plus âgées ou plus... Non.
Oui, après, je ne sais pas si Emmanuel répond aussi, c'est moi. Effectivement, il peut y avoir des configurations dans lesquelles les victimes présentent une certaine vulnérabilité ou une certaine précarité, soit sur le plan social, soit sur le plan psychologique, soit parce qu'elles sont... D'ailleurs, la loi le prévoit, hein, il y a des circonstances aggravantes du viol, dès lors que la victime présente une série de critères qui la rendent plus vulnérable, effectivement.
Alors, Riolo et Roten insinuent aussi que la plaignante a menti. Ça, c'est un stéréotype qui s'est renforcé. 37% des Français estiment aujourd'hui qu'il est fréquent d'accuser un homme de viol par déception amoureuse, soit 5 points de plus qu'en 2016. Véronique Le Goysiou, combien de fausses plaintes en réalité? Combien de menteuses en cours d'assises?
C'est extrêmement difficile de y a pas de chiffre qui peut nous dire quelque chose comme ça. En plus qu'un dossier va aux assises, c'est que la parole de la victime a été entendue. La difficulté et le problème, c'est plutôt les dossiers qui ne vont pas aux assises. Parce qu'en fait, les dossiers qui vont aux assises, les affaires de viol qui vont aux assises, représentent une part infime, non seulement des dossiers connus de la justice, et la justice elle-même ne connaissant qu'une part infime des affaires de viol, pas des viols effectivement commis.
On est toujours à 10% de femmes violées qui portent plainte?
Oui, en gros, c'est le chiffre qui pour l'instant demeure. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Et il y a eu une petite augmentation sur les chiffres de 2018, vraisemblablement suite au mouvement MeToo du reste. Mais la sociologue que je suis voudra attendre plusieurs années pour voir si un mouvement de plaintes plus importantes se dessine. Mais pour l'instant, effectivement, la justice ne connaît encore qu'une très faible part des affaires de viol déclarées par les victimes.
Sur les femmes qui mentent, Emmanuel Piette, on lit 2 à 10% suivant les études.
Alors, nous, au téléphone, on n'a pas de femmes qui mentent, puisque par définition, elles sont anonymes et qu'elles racontent leurs histoires et qu'elles sont en général crédibles. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point elles disent qu'elles n'ont jamais été crues et que personne ne les entend.
Parce que c'est plus confortable de ne pas les croire?
Parce que, oui, bien sûr. Et puis comme ça, il n'y a pas de malheur qui est arrivé, tout va bien. Et puis je pense que, alors sur le plan police et justice, je pense que chez nous, on ne peut que progresser. C'est pour ça que nous, on a vraiment une revendication qu'on crée des centres d'accueil pour les femmes victimes de viol, avec des policiers qui se déplaceraient dans ces centres et qui seraient sélectionnés, formés, aussi, bien sûr, et tous. Parce que là, en ce moment, on a beaucoup formé. Moi, ça fait 40 ans que je forme des policiers, mais jamais on les formera tous. Donc, on a toujours le risque de tomber sur un pas formé. Ouais. Alors que dans ces centres-là, systématiquement, on aura un policier formé et plutôt bienveillant. C'est-à-dire qu'au moins, la première écoute est bienveillante, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Véronique Le Guasio, sur le viol lui-même et ses circonstances, plus d'un Français sur deux continue de penser que les femmes sont plus en danger dans l'espace public. Et qu'est-ce qu'il en est exactement ?
C'est pas tout à fait vrai. Tous les travaux dont on dispose aujourd'hui montrent que c'est plutôt chez soi qu'on est en danger, puisque le viol est un crime de proximité et le premier cercle dans lequel le viol sévit, c'est le cercle familial. Contre des enfants, ces viols étant commis par des hommes de la famille, père, beau-père, grand-père, oncle, frère. Alors il y a bien sûr des viols qui se déroulent dans l'espace public, enfin dans l'espace public, en tout cas dans des lieux qui sont hors du lieu de résidence. Mais c'est d'abord la famille, le cercle familial, puis ensuite le cercle du résidentiel, puis le voisinage, qui sont les premiers espaces dans lesquels les violences sexuelles sont commises.
Et donc les fameuses conduites à risque qu'on évoquait un petit peu plus tôt, quel poids ont-elles dans ces affaires-là ?
Conduite à risque, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire des femmes qui sortent tard le soir, qui boivent, qui marchent toutes seules dans la rue, qui...
C'est encore une fois les viols dans les enquêtes dont on dispose, les viols commis dans l'espace public par des auteurs totalement inconnus des victimes et réciproquement représentent une petite proportion, en tout cas une proportion minoritaire des viols. Mais en même temps, c'est très dur d'alerter, en tout cas de sensibiliser, de communiquer, d'informer les citoyens, les femmes, les hommes, en leur disant, et notamment les femmes et les jeunes femmes, en leur disant, c'est notamment chez vous que si danger il doit y avoir, il y aura. C'est très très difficile. Moi je pense qu'on a quand même bien avancé de ce point de vue-là, où on a eu pendant longtemps des représentations du viol, en général c'était au mois de novembre, il pleuvait, et c'était une femme qui rentrait chez elle vers minuit ou 1h du matin après une soirée, et elle se faisait violer dans un hall d'immeuble. Ça arrive bien évidemment. Mais on a beaucoup plus de mal à dire, même si les enquêtes le montrent, qu'en réalité la probabilité qu'on peut avoir d'être victime de viol quand on est enfant, c'est au sein du cercle familial, et quand on est une femme adulte, c'est au sein du cercle conjugal.
Dernière question, Véronique Le Guasio. Si on regarde du côté du box des accusés, vous me disiez tout à l'heure, pas de victime, pas de profil de victime, pas de profil de violeur non plus.
Non, pas de profil de violeur. Ça a été un des grands enseignements des premières enquêtes qu'on a faites sur le viol, et d'ailleurs les féministes, enfin, les associations de femmes et les groupements de femmes l'avaient dit dès les années 70, le viol sévit dans tous les milieux sociaux. Le seul problème, c'est qu'en justice, malheureusement, on trouve pourtant un nombre beaucoup plus important, une proportion beaucoup plus importante d'auteurs issus des milieux populaires, voire précarisés. Donc il y a une sorte de bug, si vous me passez l'expression, entre le viol qui sévit dans tous les milieux sociaux, quand on regarde les enquêtes dont on dispose, les enquêtes de victimation, maintenant on en a un certain nombre, et le fait que en justice n'arriverait principalement, en tout cas, arriverait principalement des affaires dont les auteurs sont plutôt issus des milieux populaires, voire très précarisés. Il y a donc un problème là qu'il faudrait analyser.
Mais pourquoi
rectifier.
C'est parce que dans les milieux plus aisés, on a plus de choses à protéger, comme un nom, comme un patrimoine, des choses comme ça.
C'est tout à fait possible.
Et des bons avocats.
Il est tout à fait possible, effectivement, paradoxalement, en fait, que la chape de plomb du silence pèse davantage dans les milieux favorisés et aisés que dans les autres milieux. Il est fort probable aussi que les milieux aisés ou favorisés se défendent mieux, tout simplement. Ils ont plus de moyens, de ressources, pas uniquement financières, mais de ressources pour pouvoir faire front dans le cadre de la procédure judiciaire. A contrario, les milieux populaires sont davantage scrutés, en plus, par les services sociaux, par tout un ensemble de professionnels et d'acteurs qui sous la houlette desquels ils se tiennent déjà. Et face à un magistrat, c'est sûr que quelqu'un qui se situe en bas de l'échelle sociale, qui n'a pas fait d'études, qui parfois maîtrise mal la langue et qui est bien moins armé. Donc il y a vraiment là un décalage qui est extrêmement injuste de ce point de vue-là, entre ce constat que nous faisons, et depuis longtemps nous l'avons fait, que les viols sévissent dans tous les milieux sociaux, mais en justice, en cour d'assises, on a une surreprésentation d'hommes issus des milieux populaires, voire très populaires, voire très précarisés.
Et ça permet de se dire que le viol, ça ne nous concerne pas vraiment, parce que ça ne concerne que les pauvres gens. Merci.
Exactement.
Véronique Le Guasio. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Viol, que fait la justice ? C'est aux presses de Sciences Po. Emmanuel Piette, inverser la culpabilité, on en parlait tout à l'heure, ça n'est pas seulement dire aux victimes, vous l'avez bien cherché, ça n'est pas seulement insinuer qu'elles mentent, c'est aussi leur reprocher de n'avoir rien fait pour se défendre. Écoutez cette extrait de l'implacable documentaire de Laetitia Onona, diffusé en juillet sur Arte, elle l'a bien cherché, suivait le parcours de celle qui porte plainte et point de départ, le commissariat.
Donc alors, vous vous êtes présenté directement avec la famille là, pour dénoncer un abus sexuel commis par le petit ami de votre tante, c'est ça ?
Oui.
Et ça s'est passé quand ?
Hier soir. Qu'est-ce qui se passe ensuite, là?
Je tremblais, j'avais peur et tout. Et puis, il m'a déshabillé toute vitesse. Et puis après, eh bien, il a commencé.
Alors, attendez.
Alors, il a enlevé quoi? Le haut, le bas?
Le haut, et puis après, il a tout enlevé le haut. Et puis, il a commencé avec le bas. Il a commencé à me toucher.
On va en parler, qu'il ait commencé à vous toucher. Mais il baisse après, donc, votre pantalon à petite culotte. Vous vous retrouvez totalement nu ou vous avez le pantalon à petite culotte au niveau des chevilles? Non, vous êtes nu. Donc, à ce moment-là, quelle est votre réaction? Vous restez sans réaction ou est-ce que vous pouvez crier, sortir de la pièce?
Je lui ai dit que c'est pas...
Téléphoner à votre tante?
Non, parce que mon téléphone était resté dans mon blouson, dans son salon. Et je lui disais non, que je voulais pas et tout. Ben, j'essayais de le repousser, mais bon, il allait quand même. Je lui ai dit que je voulais pas parce que j'avais même pas envie de...
De lui?
Avec lui, et bon, il était plus fort que moi.
Emmanuel Piette, pourquoi cette jeune femme n'a pas bougé? Pourquoi elle n'est pas sortie de la pièce? Pourquoi elle n'a pas pris son téléphone pour appeler sa tante? Pourquoi certaines victimes ne crient même parfois pas?
Mais elle a fait plein de choses quand même. Elle a pleuré, elle a dit qu'elle ne voulait pas et il devait savoir qu'elle ne voulait pas. Donc on ne peut pas lui reprocher. Elle aurait pu aussi sauter par la fenêtre. Et pourquoi elle n'a pas sauté par la fenêtre? Je veux dire qu'elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas. Elle pleurait, elle a eu l'air malheureuse. Elle a résisté quand il habillait. Je ne vois pas ce qu'on veut de plus.
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'effet de sidération?
Juste quand même. Ce que je voudrais de plus quand même. C'est un policier formé. Ouais, c'est et c'est pour ça que j'insiste lourdement, mais vraiment, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas des vrais lieux d'accueil pour les femmes victimes de viols, hospitaliers d'abord, où on les soigne, où on les entend, où on fait des prélèvements médico-légaux, où on recevra. Et puis là, elles pourront porter plainte. Et en Belgique, au lieu de 10%, elles sont à 50% de plaintes avec des lieux comme ça. Donc franchement, je ne sais pas ce qu'on attend, mais ça commence à me chauffer.
Pour en revenir à cet extrait, est-ce que vous pourriez nous dire un mot pour terminer de ce fameux effet de sidération pour qu'on comprenne?
Oui, mais là c'est pas le lieu, parce que on l'entend bien dire j'ai pleuré, je voulais pas, voulais pas. Donc elle était pas sidérée.
Mais pour
elle
d'autres, était avec pour d'autres femmes autre... à qui on reproche de pas avoir bougé, à qui on reproche de pas avoir crié.
C'est,
il se passe quoi?
Leur dis, ben c'est comme pour le lapin dans les phares d'une bagnole. Il est là, il voit les phares arriver et il est sidéré. Les Québécoises, elles disent j'ai figé. C'est ça.
Il y a une espèce de figé comme le lapin pris dans les phares d'une voiture.
Et on le reproche pas au lapin. Pourquoi on lui dit pas pourquoi t'as pas parti en courant? Tout le monde sait bien.
Dernière idée reçue très rapidement, Emmanuel Piette. Un Français sur six, toujours dans son sondage IFOP, pense qu'une femme qui dit non, en fait, elle veut dire oui.
Trop facile. Mais d'ailleurs, c'est grosso modo tout ce débat autour du consentement. C'est-à-dire, au fond, on pourrait hurler qu'on veut pas, on l'aurait encore mal dit.
Et on l'aurait pas hurlé assez fort.
Donc, c'est clair. À moins que les hommes soient des crétins totaux, c'est assez simple de voir si une fille veut pas. Elle bouge pas, elle pleure, elle machin.
Toute la question est de savoir comment ils peuvent continuer ce qu'ils sont en train de faire, alors que...
À inverser la culpabilité. On voit les trois dernières affaires. Enfin, tous ceux qui se prennent pour Dreyfus, ils inversent sérieusement la culpabilité.
Tous.
Tous ceux qui sont en train de nous faire du Dreyfus. Là, tu te dis
accusé
et
tort,
ça marche.
Et ça marche. Compagnie. Oui, ça
c'est
marche,
honteux.
Ça marche. Bien sûr. Allez, on va se dire que MeToo aura au moins eu le mérite de remettre ses questions sur la table, même si les réponses ne sont pas encore tout à fait adéquates. Remarque, celle-là, elle est belle de réponse. Brève, simple, efficace. Angèle, avec Pierre Ninet.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
C'est un extrait du clip Balance ton coin, un titre déjà culte d'Angèle avec sa gueule d'ange, sa blondeur, sa bouche en cœur. Elle aurait pu virer princesse, mais non, elle a préféré les gros mots, les croûtes aux genoux, et c'est tant mieux. Ouais, Angèle, c'est bien le genre de pas son genre.
Doux réveil, au goût amer, était un cauchemar, oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit. Ou par les pleurs, trahisé au mauvais rêve. J'aurais bien aimé, mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? T'es mon manque et moi, j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer, pleurer.
toi avant de t'aider à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai. Ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Les matins d'Angèle pour les soirs de Passons Genre. Vous êtes sur France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol et de la commission santé du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Avec nous également celui qui n'a pas peur de donner un bon coup de balai, surtout si c'est pour dépoussiérer Disney, Thomas Messias, bonsoir.
Bonsoir.
Aux manettes du podcast Mansplaining sur Slate.fr, vous vous intéressez aux questions de genre sur nos écrans. D'un mot, chez Disney, on est comment?
Chez Disney, on a un peu limite. Hein. Si je cite juste une petite
très
étude,
rapidement.
On a...
Dévoilez pas tout, ne vous déflorez pas.
Alors on est méga sexiste en fait. On va résumer
okay,
comme ça.
Voilà, peut vraiment mieux faire. Donc voilà sans doute ce qu'elle écrit régulièrement sur les copies de ses élèves. Là, il y a Véron, bonsoir.
Bonsoir, non, je dis que j'écris pas ça.
Ça se dit plus.
Ah, c'est plus encourageant.
Vous êtes enseignante chercheuse en linguistique à l'Université d'Orléans. Le nom de votre podcast, c'est Parler comme jamais, sur Binge Audio, ou comment le sexisme s'engouffre dans le vocabulaire. Le concept de la semaine pour vous, c'est femme de chambre, mais femme de chambre en général ou en particulier?
Bah là, on peut réfléchir sur un cas particulier, hein, la grève des femmes de chambre à l'hôtel Ibis, pardon. Et on peut aussi réfléchir sur cette appellation femme de chambre, qu'est-ce que ça veut dire?
Et ben on va en parler dans quelques minutes, voire quelques secondes. Voilà, vous savez tout, ou presque, alors on peut y aller.
France Inter, Passons Genre.
Il y a près de 3 mois, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles se sont mises en grève illimitée. Ce qu'elles veulent, une revalorisation des salaires, la fin de cadences infernales et puis au fond, un peu de dignité. Écoutez l'une de ses porte-paroles, Rachel Keke, au micro de Nicolas Fillon, en août dernier sur France Inter.
Les conditions de travail sont très, 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 très difficiles. Une femme de chambre ici, qui a 4 heures de travail, au lieu de 18 chambres, elle se retrouve à 32 chambres. Les gouvernantes aussi qui contrôlent 120 chambres, 130 chambres par jour, c'est trop. Nous sommes malades, il y a des gens qui ont mal au dos, mal aux pieds, mal aux bras. On sent la fatigue, tu arrives chez toi, tu peux rien faire.
Que vous dites-vous, Laëlia Véron, quand vous entendez cette femme ou ces femmes de chambre?
Je pense que c'est une situation révélatrice des oppressions que peuvent subir les femmes, parce qu'il y a l'exploitation économique dont vous avez parlé, mais il y a aussi l'exploitation sexuelle, hein, parce qu'à l'hôtel Ibis des Batignolles, il y a une des femmes qui dénonce, qui a porté plainte pour viol, et elles ont aussi dénoncé des agressions sexuelles fréquentes, hein, des mains aux fesses, et du harcèlement sexuel en général. Donc on a vraiment oppression économique, oppression sexuelle, avec aussi la question raciale, puisque beaucoup de ces femmes sont des femmes racisées, et on sait que, on avait dit que, par exemple, les viols peuvent toucher tout le monde, mais aussi, on sait aussi qu'il y a des femmes qui sont plus facilement ciblées comme victimes, et notamment dans ces cas-là, les femmes issues de l'immigration.
Emmanuelle Piette, que vous inspire la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis?
Un vrai envie de les soutenir.
Ouais. Et c'est assez rare quand même. Normalement, c'est des professions qui sont tellement précaires, peu syndiquées, qui sont censées être invisibles, c'est assez rare.
Oui, il y a quand même des syndicats de femmes, de gens de maison, on dit, mais il y a des syndicats, et elles ont été soutenues, et je crois que il y a un ras-le-bol, et quand il y a ras-le-bol, il y a lutte.
Alors, l'une de ces... On l'entend dans leurs revendications, effectivement, Laëlia Véron l'évoquait à l'instant, il y a effectivement une collègue qui a porté plainte pour viol, et cette plainte, évidemment, n'a donné suite à peu près rien, et elle dénonce qu'elles appellent ce fameux droit de cuissage. Ça aussi, on n'en sort pas, Emmanuelle Piette, il y a un droit de cuissage.
Il y a des gens qui croient qu'ils ont le droit de cuissage, mais j'espère bien qu'on va leur expliquer définitivement que non. Mais bien sûr que On est dans une société où un certain nombre d'hommes pensent que c'est légitime de sauter sur tout ce qui bouge sans leur demander leur avis.
Et surtout, la livraison, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est au croisement de plusieurs dominations et de plusieurs discriminations, vous, comme linguiste, c'est le terme de femme de chambre qui vous interpelle.
Oui, parce que femme de chambre, comme d'autres professions, par exemple femme de ménage ou dame pipi ou même nounou, tout ça c'est des mots, des professions qu'on dénomme au féminin. Et même s'il y a aussi des hommes dans ces professions, ça nous rappelle que ce sont surtout ces femmes qui font ces métiers-là qui riment souvent avec travail à temps partiel, avec des salaires très bas. Et juste pour vous donner une petite anecdote linguistique, quand on tape sur les moteurs de recherche femme de ou homme de, on tombe sur femme de ménage et homme d'affaires. Et ça, ça nous montre toujours, malgré tout, comment notre société est divisée. On peut trouver ça caricatural, mais c'est quand même assez révélateur.
Et quand on dit femme de chambre, c'est moi qui vois le mal partout, sans accent circonflexe, ou est-ce qu'il y a une ambiguïté dans la dénomination ?
Oui, et on retrouve l'idée aussi de ce droit de cuissage et du troussage de domestiques. On se rappelle que c'est quand même une expression qui peut paraître très vieillie, mais qui avait été utilisée par Kahn au moment de l'affaire de Nafissa Tou-Diallo. Et donc, c'est des termes
de Dominique Strauss-Kahn. C'est Jean-François Kahn qui avait parlé de troussage de domestiques.
C'est ça. Il avait dit non, c'est pas un viol, c'est un troussage de domestiques.
Ah ben voilà.
Donc, alors, à des moments, on dit que bon, on n'est plus au 19e siècle. Et au fait, ce qui est frappant pour moi, c'est que sur cette situation des femmes de chambre, on retrouve le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, on retrouve les romans du 19e. On a l'impression que ça n'a pas du tout évolué.
Ce que ces femmes de chambre en grève nous renvoient aussi, Lélias, ce sont des considérations qui sont fois un petit peu gênantes, même pour nous, nous, certes féministes, mais surtout blanches et surtout évoluant dans des milieux professionnels aisés. Ça nous rappelle quoi ?
Bah, ça nous rappelle que il y a une contradiction féministe à se libérer, par exemple, du travail domestique juste en le déléguant à d'autres femmes, mais qui, elles, sont plus précaires économiquement et qui sont racisées. Et ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie contradiction à laquelle il faut qu'on se confronte. Ça ne peut pas être une véritable émancipation féministe.
Et c'est une question qui est en train d'affleurer maintenant, de toute façon.
En tout cas, ça nous pose la question de nos pratiques individuelles, ou même si on n'a pas de gamin, par exemple, moi, là où je travaille, il y a des gens qui font le ménage, c'est pas moi. Et c'est, par exemple, des femmes qui correspondent à ce type-là. Et je pense que ça doit vraiment nous mobiliser pour qu'on soutienne ce genre d'action, ce genre de lutte. Il y a des actions de solidarité qui sont possibles, il y a un pot commun. Ça nous concerne, ce genre de combat, quand on se dit féministe.
Manuel Piette, sur ce plan-là, sur le fait qu'elles sont à la croisée des discriminations et qu'on l'entend de plus en plus, il y a des discours féministes intersectionnels, là où avant, les discours féministes étaient dits universel ou universaliste. Vous les entendez comment, ces discours-là ? Celles qui disent, attendez, les femmes noires, c'est croisement plusieurs discriminations,
c'est des combats spécifiques. C'est des combats de classe et de sexe, mais on est toujours plus opprimé si on est une femme noire que si on est un homme noir. On est toujours plus opprimé si on est une femme blanche que si on est un homme blanc. Donc c'est quand même, je crois moi, à l'universalisme des combats sur le droit des femmes. C'est pas pour ça que sur les problèmes de classe sociale, on n'a pas d'autres batailles à mener.
Quant à elle, depuis le temps, elle aurait pu se mettre aussi en grève. Mais non, depuis la nuit des temps, elle passe le balai pour des nains. Allez. Et à la suite de Blanche-Neige, avec vous Thomas Messias, on va se balader dans le monde merveilleux des dessins animés, merveilleusement genrés. Surtout, l'actrice américaine Gina Davis, très impliquée sur ces questions-là, vient de l'annoncer. Son institut a réussi à convaincre Disney. Un outil doté d'intelligence artificielle va permettre d'analyser les scénarios pour détecter tous les stéréotypes sexistes ou ethniques et pour corriger le tir. Mais vous, vous estimez que ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi ?
J'attends de voir comment ça va être mis en place, mais je me dis que si on a besoin de machines et d'intelligence artificielle pour détecter ça, c'est qu'on a un vrai problème d'ordre général. Le souci dans les industries cinématographiques notamment, c'est que la plupart des décideurs, la plupart des artistes sont des hommes blancs. Si on engageait juste plus de personnes issues de la diversité, de toutes les diversités, c'est-à-dire des personnes queer, des personnes LGBT, des personnes racisées, on aurait des gens capables et compétents, capables de nous dire là, ton scénario est sexiste, là, ton scénario est raciste.
Or, donc c'est apprendre en amont.
Voilà, on est en train de développer un outil informatique, quoi.
Donc c'est l'échec de l'intelligence, c'est de l'intelligence tout court, de l'intelligence humaine, c'est l'échec du combat finalement.
Tout à fait. Gina Davis, qui est pleine de bonnes intentions, elle fait des tas de choses formidables au sein de son institution. Elle nous explique que c'est vraiment pour détecter ce qui est de l'ordre de l'inconscient, le racisme inconscient, le sexisme inconscient. Mais en fait, il suffit qu'on se regarde, qu'on regarde ce qu'on écrit, qu'on regarde ce qu'on dit, et c'est pas inconscient tout ça.
Ça permet juste de garder le pouvoir à la classe dominante.
Voilà.
C'est un truc simple quand même.
C'est bien une formule.
Vous l'air. Vous le disiez, Thomas Mechias. Je ne sais plus quelle était votre formule exactement il y a quelques minutes, mais quoi qu'il en soit, on part de très très loin dans le monde de l'animation. Je vous l'avais promise. La voilà, Blanche-Neige et les Sept Nains.
Mettons de l'ordre, faisons-leur une surprise. Ils me permettront peut-être de rester. Vous, vous ferez la vaisselle. Vous, vous rangerez la pièce. Vous, vous époussetterez la cheminée. Et moi, je prends le balai.
Et moi, je prends le balai. Ça résonne très étrangement, juste après le reportage sur les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, quand même. Quel regard que vous, féministe Emmanuelle Piette, vous portez sur Blanche-Neige ?
C'est des niaiseries complètes.
Oui. Dire que c'est complètement... Mais est-ce que c'est des niaiseries, donc c'est pas dangereux ?
Ah non, mais attends, c'est comme ça. Enfin, moi, je finis toujours mes consultations avec les femmes victimes en leur rappelant le crapaud. Tu sais, nous, on a été élevées avec le crapaud. Nous, les filles, on nous a dit qu'un jour... on rencontrerait un crapaud, qu'on l'embrasserait et que ça deviendrait un magnifique prince charmant. Mais c'est pas vrai du tout. La plupart des crapauds restent crapauds et quelquefois les princes charmants deviennent des crapauds. Et le problème, c'est comme on a été élevé dans le Caire et autres.
Dans le Caire, dans le soin à l'autre.
Dans le soin, et ce qu'on se dit, c'est je l'ai mal embrassé. Si je m'étais plus appliquée, peut-être que. Et c'est ça, au fond. Alors, c'est pour rigoler à la fin. Mais ces mythes et ces contes qu'on nous a faits, ils sont là pour nous bourrer le mou. Il faut en sortir.
Blanche-Neige est loin d'être la seule, c'est-à-dire à se taper le ménage, hein, Thomas Mechias. On a les chiffres sur la répartition des corvées ménagères, je crois.
Oui, il y a une chercheuse américaine qui, en 2000, a étudié une douzaine de classiques. Alors, ça va de Blanche-Neige à Toy Story en termes de temporalité. Et donc, elle a étudié la répartition des tâches ménagères entre les personnages féminins et masculins. Et le résultat, il est édifiant, puisqu'on a 39 corvées qui sont faites par des femmes ou des filles, contre 6 pour les homologues masculins. Et elle a également étudié, par ailleurs, les séquences dans lesquelles un personnage se trouve en position d'autorité. Et là, évidemment, le rapport s'inverse. On est sur 6 fois plus de rapports de domination en faveur des hommes qu'en faveur des femmes.
Mais alors, vous, par contre, petite question, vous êtes père, vous avez 3 enfants, pardon pour cette question perso, mais est-ce que du coup, vous hésitez à leur montrer un bon vieux Disney ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas, censurer, il vaut mieux montrer et discuter. Je ne vous dis pas que je suis le père parfait qui ne laisse jamais ses enfants seuls devant la télé, parce que malheureusement, ça serait mentir. Mais en revanche, effectivement, si on regarde Blanche-Neige, on peut en discuter. Je suis assez fier de voir que ma fille de 9 ans, par exemple, en regardant Blanche-Neige ou ce genre de dessin animé, me dit après, mais papa, il y a quand même un souci, quoi.
Emmanuelle Piette?
Enfin, moi, quand ils étaient petits, mes gosses, mais c'est il y a longtemps, j'avais cassé la télé parce que je trouvais ça infréquentable. Le résultat, c'est quand même qu'ils la regardaient ailleurs et qu'ils étaient aussi imprégnés. Mais la Candy, à l'époque, il y avait Candy, cette pleurnicheuse infernale, c'est insupportable. Donc j'allais leur déglinguer Candy, mais bon, voilà.
Elle rentrait par la fenêtre. Vous la foutiez dehors, Candy, mais elle rentrait par
quand
la fenêtre.
Quand même, je pense que je les ai un peu attaqués. Quand même.
Thomas Mechias, dernier chiffre peut-être sur les temps de parole des personnages.
Oui, il y a des chercheuses américaines en linguistique cette fois qui ont montré que les personnages masculins dans les films Disney ont en moyenne 20% de temps de parole en plus que les personnages féminins. Et ça concerne également des films comme Pocahontas, Mulan ou La Reine des Neiges, où les héroïnes sont pourtant des femmes.
Mmh. Et quand elles parlent de quoi ? Si on pense au fameux test de Bechdel, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce que c'est ?
C'est un test très simple, c'est 3 critères. Il faut voir si dans un film, des femmes parlent entre elles, si elles sont nommées, si elles ont un prénom ou un nom, et si elles parlent d'autre chose que justement d'amour et des hommes. Et effectivement, la plupart de ces films ne passent pas ce test.
Non.
Du tout.
Non. Et en même temps, ça commence doucement mais sûrement à bouger. Une scène de Toy Story 2 aurait été supprimée juste avant sa réédition en Blu-ray. Dans la version originale, on y voyait un des personnages, Pete le Puant, à 2 doigts du harcèlement avec Barbie. Hop là, supprimé pour le DVD. Comme quoi, malgré mon pessimisme notoire, je suis obligée de le reconnaître, il y a quelques notes d'espoir portées entre autres par de vraies bonnes bad girls. C'est Mia sur France Inter. Allez. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Sookie, sookie, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Lift fast, die young, bad
the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Fast guy, young bad girls do it well. 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 Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back. If you think you can hang, hands up, hands tight. Don't get screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Gonna stop me when I'm coming through. What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight. Don't get screaming if I blow you with a bang.
C'était Mia, autrice, compositrice, interprète, rappeuse, productrice, activiste et styliste, comme quoi tout est possible. Et aux bad girls ou aux bad boys qui nous écoutent, je rappellerai que c'est Thierry Dupin qui signe chaque semaine notre programmation musicale et que vous en retrouvez évidemment toutes les références sur franceinter.fr à la page de Passons Genre. Michel Bézikian est à la technique ce soir, Marie-Annick Rimbaud à la réalisation, Romy Engels est notre attachée de production et tous ensemble, on va l'ouvrir notre fabrique du masculin et du féminin.
Passons Genre. Julia Foyce.
MeToo, 2 ans après, les lignes ont bougé, les frontières du genre se sont floutées, du moins elles ont été enfin interrogées, alors profitons-en. Imaginons ensemble et de façon parfaitement subjective et débridée ce que pourraient être les hommes et les femmes de demain. Emmanuel Piette, s'il y avait un objet qui racontait votre féminin, à vous, ce serait quoi?
Ah mais moi, c'est une plaquette de pilules. Hein.
Vous l'avez avec vous, là?
Non, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas retrouvée.
Pas cadeau.
Pas cadeau.
Pas cadeau pour pas son genre.
Je la garde pour moi.
Alors,
non,
c'est...
parce que j'en ai plus.
C'est une plaquette de pilules. Dites-nous pourquoi je vous ai coupé.
Ouais. Parce que j'ai commencé mes études de médecine pour le droit des femmes en 68. Ouais. Et c'était ça. Ouais. La liberté, c'était ça. C'était pouvoir avoir des relations sexuelles sans risquer. Et moi, j'ai 2 copines pendant mes études qui sont mortes d'avortement sceptique. Enfin, je veux dire qu'on ne rigolait pas avec ces histoires-là. Et ça, quand j'ai commencé à travailler en 75, c'était le début de la contraception autorisée, le début de l'avortement. Ouais. Et on a vu comment ça a changé la vie des femmes et à la fois comment on a pu se mettre à penser aux violences à ce moment-là. C'est-à-dire, je maîtrisais ma fertilité et craque, tout d'un coup, je m'apercevais que j'avais pas si envie que ça. Et du coup, avaler un truc tous les jours, ça faisait dégueuler. Ou bien, apprendre un truc tous les jours alors qu'on avait un copain qu'on allait voir toutes les 6 semaines, ça énervait un peu. Et tout d'un coup, on a commencé à penser le désir, le plaisir autrement. Et pour moi, c'est une vraie révolution. Donc, c'est mon objet. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu un déclic? Vous étiez étudiante en médecine, vous le disiez là, vous avez commencé comme médecin en PMI, en protection maternelle et infantile, et puis vous êtes spécialisée très tôt sur la santé des femmes. Est-ce que vous vous souvenez d'un déclic?
J'ai fait médecine pour santé des femmes.
D'accord.
Alors là, j'ai fait médecine, je me suis enquillée 8 ans d'études
pour ça.
Que contraception, avortement, droit des femmes.
Et vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit j'embrasserai cette carrière?
J'ai
et
toujours pensé que je voulais faire quelque chose pour l'égalité. C'est-à-dire, même dans mes classes, de mes photos de classe de quatrième, il y a encore un autre copine féministe, tu vois, donc c'est ça. Et j'ai le droit, l'égalité, les mêmes droits. Ça, alors, pour moi, c'était fondamental. Et à cette époque-là, le droit le plus, c'était s'éclater sans risque. Et s'éclater sans risque, c'était à l'époque, c'était la pilule et la contraception, quoi, et l'avortement.
Mais alors, quel regard vous portez sur ces nouvelles générations qui s'écartent, qui s'éloignent de la pilule, qui la critiquent, qui pointent du doigt la perte de libido, qui pointent du doigt la prise de poids?
On n'a jamais eu autant d'attaques qu'en ce moment contre la contraception, comme on en a pour les vaccins. Rappelez-vous, avant, on avait des polio, des varioles et tout, tout le monde crevait. Et là, on a vacciné, il n'y a plus personne qui est malade et on continue à baver sur les vaccins. Et c'est la même chose sur la pilule. La pilule, si on réfléchit, c'est un des outils les plus extraordinaires et qui a des tas d'avantages pour la santé des filles. Tu peux, si tu prends la pilule, ne jamais plus avoir tes règles tranquillement tant que tu ne veux pas les avoir. Le bonheur total. Du coup, ça te supprime les douleurs de règles. Ça te supprime l'anémie. Ça a un effet positif contre les cancers de l'ovaire.
Critiquer la pilule, c'est pas forcément critiquer la contraception.
Pilule, je te dis les avantages de la pilule.
Mais je veux juste dire
Moi, je finis sur les avantages parce que on n'entend que des... Non, attends, on n'entend que des merdes sur la pilule et je voudrais avoir 5 minutes pour dire tous les avantages. Après ça, tu peux faire autre chose, ça m'est égal. Mais entendre dire que ça fait grossir, ça fait maigrir, c'est complètement faux. Et c'est ça qui est les bêtises dites dessus. Après, si on n'a pas envie de prendre la pilule, on ne la prend pas, ça m'est égal. Mais on ne dit pas des choses inexactes. C'est comme pour les vaccins.
Mais de toute façon, on s'est dit en préparant cette émission qu'on avait très envie de faire une émission entière sur la pilule et sur la contraception. On vient de rire toutes les deux. Et promis, on en parlera. Votre plaquette de pilule va rejoindre, métaphoriquement, bien sûr, notre labo du genre. Vous reconnaissez les petites notes du générique. C'est terminé pour ce soir. Emmanuel Piette, merci infiniment d'être passé nous voir. Je redonne le numéro de SOS Viol Femmes Information 0800 05 95 95. Laëlia Véron, votre podcast Parler comme jamais, c'est sur Binge Audio avec un nouvel épisode tous les premiers mercredis du mois.
Dernier, pardon.
Thomas Messias, Mansplaining, c'est sur Slate.fr. On vous retrouve aussi en live le 20 octobre à 18h à La Gaîté Lyrique dans le cadre du Paris Podcast Festival. On se retrouve la semaine prochaine. Vous restez évidemment à l'écoute de France Inter juste après le flash. Vous avez rendez-vous évidemment avec Laurent Goumard et Côté Club, et moi je vais m'enlever la patate que j'ai dans la bouche. Allez, à la semaine prochaine.